Après la mort du célèbre roi Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. 10 tribus se sont rassemblées autour de leur roi, et les 2 autres tribus, Juda et Benjamin, se sont rassemblées autour d'un autre roi, avec capitale Jérusalem. Le royaume du Nord, le royaume d'Israël, ainsi a eu pendant environ 200 ans, 19 rois. 200 ans qui vont de la mort de Salomon jusqu'au moment où il y aura la captivité du peuple d'Israël par les Assyriens. Environ 2 siècles. Et sur ces 2 siècles de temps, 19 rois vont régner sur le royaume du Nord. Ils vont se ressembler, ces 19 rois. Quand vous lisez le texte de l'Ancien Testament, à propos de 16 de ces 19 rois, il est dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. » 16 de ces 19 rois vont reproduire, selon le texte, le péché de Jéroboam. Ce texte que je viens de lire dans 1 Roi 15 s'appliquait à Bécha. Et si vous lisez dans 2 Rois 13, à propos de Joachaz, il est dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. » Impressionnant de voir à quel point Jéroboam a donné un exemple que presque tout le monde a suivi pendant 2 siècles. Le péché de Jéroboam. Si vous prenez le premier livre des Rois au chapitre 12, on nous raconte dans ce chapitre que Jéroboam, roi du Nord, a tout d'un coup réfléchi qu'il était dans une situation difficile. En effet, le peuple d'Israël allait 3 fois par année au temple à Jérusalem pour les fêtes qui étaient prescrites dans le livre de Moïse. Et Jéroboam, roi du Nord, s'est dit « Mais enfin, si tout Israël continue à aller 3 fois par an à Jérusalem, ils vont s'habituer à retourner à Jérusalem, ils vont se familiariser avec Jérusalem, et finalement ils vont s'attacher au roi de Juda, et ils vont retourner avec le roi de Juda. » Il a pensé que ça ne ferait pas son affaire. Alors il s'est dit qu'il fallait installer dans son royaume à lui un culte qui permettrait au peuple de venir adorer sans devoir aller à Jérusalem. Et ainsi, Jéroboam a fait plusieurs choses. Il a fait en réalité 3 choses. La première nous est mentionnée dans le livre des Rois, premier livre des Rois, au chapitre 12, au verset 28 et 29. Premier livre des Rois, chapitre 12, versets 28 et 29. Il est écrit ceci. « Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et mit l'autre à Dan. » Première chose qu'il va faire, 2 veaux d'or. Et il va dire, le texte est intéressant, « Voilà ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Inévitablement, on repense à l'histoire du veau d'or. Mais bien entendu, personne d'entre eux n'avait l'intention d'adorer un veau d'or. C'était simplement une manière d'adorer l'Éternel de nouveau. La deuxième chose que Jéroboam a faite est inscrite un petit peu plus bas au verset 33. Il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois, moi qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Il monta sur l'autel pour brûler des parfums. La deuxième chose que Jéroboam fait, c'est établir lui des fêtes, des moments particuliers, et il va choisir d'être lui-même le prêtre. Il va se nommer prêtre, il va faire les sacrifices lui-même sur l'autel. La troisième chose que Jéroboam va faire, et qui semble être la pire en fonction de ce que dit le texte, se trouve au chapitre suivant. Premier livre des Rois, chapitre 13, nous lirons à partir du verset 33. Il est écrit ceci. « Après ces événements, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveaux prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. » Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. il a nommé des prêtres en choisissant qui avait envie de l'être. Et il semble, d'après le texte, que cette troisième initiative que Jéroboam a eue était la pire. C'est à cause de cela, dit le texte, que sa maison a été détruite entièrement et sa postérité. Jéroboam a fait trois choses qui semblent être graves aux yeux de Dieu, trois choses que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Qu'est-ce que Jéroboam a fait en réalité? La première chose que Jéroboam a fait, c'est sortir Dieu de son sanctuaire. Il a amené en réalité le peuple à adorer Dieu, mais d'une autre manière, non pas dans le cadre du temple de Jérusalem tel que Dieu l'avait établi. Il a sorti Dieu de son sanctuaire et il en a fait une autre image. Il a amené finalement le peuple à adorer Dieu au travers de l'adoration d'une image de Dieu, un veau dans le cas particulier. Dans ce sens-là, on remarque que Jéroboam a enfreint le deuxième commandement. Mais il est intéressant de voir qu'il a transformé complètement la perspective, la conception que l'on avait de Dieu pour la rendre disponible, accessible au peuple. Il a amené finalement le peuple à adorer une créature à la place du Créateur. Dans le livre Patriarches et Prophètes se trouve ce paragraphe à propos de ce que Jéroboam a fait. Lorsqu'on exalte la créature au-dessus de son Créateur, lorsqu'on adore la créature au lieu du Créateur, on aboutit toujours aux pires catastrophes. Ainsi, quand le peuple d'Israël adora Baal et Astarté, il rendit un culte suprême aux forces de la nature et perdit contact avec tout ce qui est élevé. Il devint une proie facile pour la tentation. Privé de défense, l'âme s'égare, elle est incapable de lutter contre le péché et les viles passions du cœur humain se donne libre cours. Telles furent certaines des conséquences de l'instauration du culte du veau d'or de Jéroboam. Lorsque l'on change le culte du Créateur vers la créature, on aboutit inévitablement à des grandes catastrophes. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans tout le règne de ces rois. Jéroboam a changé la perspective de Dieu. Il y a deux perspectives de Dieu, deux manières de concevoir Dieu, deux manières opposées d'ailleurs. La première manière de voir Dieu, c'est de voir un Dieu que l'on appelle un Dieu transcendant. C'est le Dieu immensément grand, c'est le Dieu très loin, c'est le Dieu très haut, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui sait tout, le Dieu omniscient, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui est immensément parfait, immensément saint. C'est un Dieu qui nous est lointain et nous sommes rien du tout à côté de lui. Nécessairement, la relation que nous allons établir avec un Dieu perçu de cette manière va être changée aussi. Ce sera une relation de peur, de crainte, d'un immense respect. Et lorsque cette conception est poussée à l'extrême, on arrive à se reconnaître tellement peu devant lui qu'on a besoin de se mortifier pour être accepté par ce Dieu-là. Cette conception de Dieu peut être reçue à différents degrés, mais elle va conduire à un culte qui est centré sur la compréhension de la révélation de Dieu. Ce Dieu-là, nous avons besoin de comprendre sa parole pour le connaître, parce qu'il est tellement différent de nous que nous avons véritablement besoin d'apprendre à le connaître dans sa parole. Le culte sera donc centré sur une compréhension intelligente de sa parole. Ce sera un culte paisible, un culte qui cherche à connaître la volonté de Dieu de sorte que nous puissions lui obéir, donc lui être agréable. Évidemment, lorsque cette conception est prise seulement en elle, toute seule, et conduite à l'extrême, l'être humain se sent complètement écrasé par Dieu, un Dieu tellement grand, tellement fort, tellement tout-puissant. Il faut que l'être humain se martyrise pour rendre le culte acceptable à ce Dieu-là. Et nécessairement, les formes du culte vont changer, la musique aussi du culte va changer. Ce sera une musique très monotone, où le message est important. Ce sera par exemple une musique où il n'y a pas d'harmonie pour ne pas attirer l'attention sur la musique, mais garder l'attention sur le message. Et il y a là toute la gamme des différentes nuances que l'on peut apporter par rapport à cette vision d'un Dieu, le Dieu transcendant. À l'autre extrême, il y a le Dieu que l'on va appeler le Dieu immanent. Lui, c'est au contraire le Dieu très proche, c'est le Dieu copain, c'est le Dieu qui est comme nous, qui nous ressemble énormément, qui est avec nous. C'est un Dieu qu'on ne cherche pas à connaître, mais que l'on veut ressentir. Parce qu'en réalité, ce que tu sens, c'est Dieu en toi. Donc j'ai besoin de savoir quelles sont mes émotions pour savoir ce que Dieu a à me dire. Dieu me parle dans mon cœur. Et ainsi on va rechercher, non pas à connaître ce Dieu, mais à ressentir ce Dieu. On va chercher à posséder ce Dieu et à être possédé par lui. La forme du culte, bien entendu, et la relation établie avec ce Dieu-là va changer. On ne va pas chercher à savoir ce qu'il dit, on veut chercher à savoir comment le ressentir. Et on va chercher dans le culte à avoir tous les outils qui vont mettre les émotions en route pour pouvoir ressentir Dieu. On va utiliser aussi les outils pour pouvoir rencontrer Dieu par l'extase. Et bien entendu, la musique et les instruments de musique seront utilisés en conséquence de cela, pour reproduire l'état d'excitation, des émotions, de l'extase, de cette contemplation du Dieu par l'émotion. On retrouve d'ailleurs, dans le culte contemporain, différents éléments que nous retrouvons dans ces formes de conception de Dieu. Le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu de la Bible, ce Dieu de la Bible est en réalité ni l'un ni l'autre, mais les deux à la fois. Le Dieu de la Bible, c'est l'équilibre entre ces deux extrêmes. Et pour connaître Dieu, on ne peut pas prendre soit une conception, soit l'autre. Il nous faut associer les deux, parce qu'elles sont toutes les deux dans sa parole. Souvenez-vous, par exemple, de Dieu qui se manifeste au Sinaï. La foudre, le feu, le tonnerre, une manifestation extraordinairement puissante, qui n'était rien en fait à côté de ce que Dieu est véritablement, mais qui avait rempli le peuple de terreur. Et ce même Dieu-là dit en même temps, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Ce même Dieu a voulu habiter au milieu d'eux, dans le sanctuaire, cet Emmanuel, Dieu avec nous. Pensez par exemple, pour prendre un élément du Nouveau Testament, à ce qui se passe dans ce qui nous a raconté dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Jésus va dire une chose qui va frapper les oreilles de son entourage. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 30. « Moi et le Père, dit Jésus, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais c'est pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Le peuple même qui avait reçu la révélation de Dieu n'arrivait pas à concevoir que cet être humain qu'ils avaient en face d'eux, Jésus, était aussi Dieu. Ils le voyaient semblable à eux et par conséquent, chaque fois que Jésus essayait de leur faire comprendre à quel point il était l'incarnation de Dieu, il le prenait pour un blasphème et voulait l'éliminer. De son temps, les gens avaient déjà du mal à associer les deux notions, parce que dans ce Jésus qu'ils avaient sous les yeux, il y avait la plénitude de la divinité et la plénitude de l'humanité aussi. C'est dire à quel point il est difficile d'associer ces deux notions dans l'équilibre que la Bible nous donne. Mais en réalité, l'équilibre que la Bible nous donne entre ces deux notions opposées se trouve réconcilié admirablement dans Jésus. Et Jésus est représenté dans la parole de Dieu par tout le système du temple et du sanctuaire. Si l'on fait comme Jéroboam, si l'on enlève Dieu du sanctuaire, du cadre que lui-même a établi pour être compris, on va dénaturer la conception que l'on a de Dieu, on va dénaturer par conséquent la relation que l'on va établir avec lui, et on va par conséquent développer une fausse conception de Dieu. Cette fausse conception de Dieu va se retrouver dans les formes du culte. Elle va se retrouver dans la musique du culte. Elle va se retrouver dans les instruments que l'on va utiliser. Elle va se retrouver répercutée dans nos prières, dans notre témoignage, dans toute notre vie chrétienne et religieuse. c'est dire à quel point ce que Jéroboam a fait avait des conséquences graves et lointaines. Sortir Dieu du sanctuaire, sortir Dieu du cadre où lui-même s'est révélé, c'est détruire la révélation de Dieu et notre compréhension de la personne de Dieu lui-même. C'est ce que Jéroboam a fait en réalité. En faisant cela, Jéroboam n'a pas amené le peuple dans l'athéisme, mais il a produit deux problèmes. Le premier, c'est le panthéisme, c'est-à-dire Dieu est partout, Dieu est dans tout, Dieu est dans la nature. Et cette conception-là s'est répandue dans le temps, elle s'est répandue jusqu'à nos jours encore, où l'on voit Dieu dans tout ce qu'il a créé. L'autre problème, c'est le polythéisme. Il y a beaucoup de dieux. Il y en a autant que vous voulez. Ce Dieu est à votre disposition partout. Il avait fait des autels partout pour que Dieu soit à la disposition des hommes, là où il se trouve. La forme moderne du polythéisme dans notre société s'appelle le pluralisme, où tout est bon et où tout est à portée de chacun et chacun a la possibilité de décider pour lui-même ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Ainsi, le christianisme lui-même, pendant des siècles, a oscillé entre ces deux extrêmes, de comprendre véritablement comment est Dieu, qui est Dieu. Est-il ce Dieu très lointain ou est-il ce copain tout proche? Le christianisme d'aujourd'hui est encore, me semble-t-il, à la recherche de l'équilibre qui est en Jésus-Christ. Et le christianisme d'aujourd'hui ne trouvera jamais l'équilibre tant qu'il n'aura pas remis ce Dieu-là dans son sanctuaire. C'est-à-dire qu'il n'aura pas accepté l'enseignement de la Bible sur le sanctuaire qui nous permet de comprendre qui est Dieu véritablement et comment il demande d'être adoré. La deuxième chose que Josaphat a faite, c'était d'être le prêtre pour tout le monde. Il s'est improvisé, lui, chef des prêtres, premier prêtre, et il a offert les sacrifices. Nous retrouvons dans cette arrogance de Jéroboam quelque chose que la prophétie a mentionné. Vous vous souvenez, dans le livre de Daniel, au chapitre 7 et au chapitre 8, il est question d'une corne, c'est-à-dire d'une puissance. Et cette puissance nous est présentée comme enlevant le sacrifice perpétuel et comme renversant le lieu du sanctuaire de Dieu. C'est exactement ce que Jéroboam a fait. Il enlève le perpétuel, il enlève ce sacrifice d'intercession et prend lui l'initiative à sa manière de le faire, pensant que c'est lui qui peut remplir ce rôle d'intercesseur. Il veut prendre la place de Dieu. Ça non plus n'est pas nouveau. Dès le jardin d'Éden, le diable avait dit « Vous serez comme Dieu ». Et en effet, le christianisme n'a pas été à l'abri de cette tentation-là, de prendre ce qui est la responsabilité du Christ lui-même, l'intercession, le pardon des péchés, et s'attribuer à soi et à son clergé la capacité d'accorder le pardon aux êtres humains. C'est dire à quel point le péché de Jéroboam frappait en réalité à la base de qui est Dieu et de ce qu'il est pour l'humanité. Mais la troisième chose que Jéroboam a faite attire mon attention parce que, je le disais tout à l'heure, le texte semble dire que c'est de tout ce qu'il a fait, la pire de toutes. Et c'est un peu étonnant. Dans 1 Roi, chapitre 13, où nous étions tout à l'heure, il nous est dit, il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Autrement dit, Jéroboam va prendre des gens du commun pour en faire des gens remplis d'un ministère sacré. Il va anéantir la barrière qu'il y a entre le sacré et le profane. Il va faire du commun avec le tout. Pour cette raison, nous dit le texte, sa maison sera détruite à toujours. Est-ce là véritablement la faute de Jéroboam, le plus grand de ses péchés, avoir détruit la distinction entre le sacré et le profane? Dans le livre du prophète Ézéchiel, se trouve un passage que j'aimerais lire avec vous parce qu'il nous montre à quel point, lorsque cette barrière entre le sacré et le profane est détruite, les conséquences sont graves. Et en vue des conséquences que cela porte, on peut comprendre que la Bible considère ce péché comme étant le plus grave des péchés que Jéroboam ait pu faire. Ézéchiel chapitre 22, au verset 26, il est dit ceci. Ézéchiel chapitre 22, verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Lorsque l'on enlève la différence entre ce qui est sacré et ce qui est profane, Dieu lui-même devient profane aux yeux du peuple. Dieu lui-même devient quelconque. Dieu lui-même est vidé de ce qu'il est. Et on comprend à ce moment-là que la Bible considère ce péché de Jéroboam comme la faute suprême qui entraîne non seulement le peuple dans la catastrophe, mais vers la punition de Dieu. Enlever la séparation entre le sacré et le profane. Tout est commun. Dieu n'est plus Dieu. Et finalement, nous retrouvons quelque chose qui nous est familier dans le monde d'aujourd'hui, où en réalité, c'est un langage commun de nos jours. Le sens du sacré a disparu et on ne voit plus l'intérêt de faire la différence entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Cette idée, d'ailleurs, est directement associée à l'absence de Dieu. Permettez un exemple. La société humaniste américaine a écrit un manifeste, il y a pas mal d'années en arrière, dans lequel elle exprime son credo, pour dire les choses d'une façon simple. Permettez que je vous lise trois articles de ce manifeste de la société humaniste américaine. Article 1er. Les religieux humanistes considèrent l'univers comme existant de lui-même et non pas créé. Article 2. Les humanistes croient que l'homme fait partie de la nature et qu'il a émergé comme le résultat d'un processus continu. Autrement dit, article 1. Dieu n'est pas le créateur. Article 2, l'homme est le produit de l'évolution. Maintenant, la conséquence de cela se trouve à l'article 7, un peu plus bas. Permettez que je vous le lise. Article 7. La religion est faite des actions, des objectifs, des expériences significatives pour l'homme. Rien de ce que l'homme fait n'est étranger à la religion. Cela inclut le travail, l'art, la science, la philosophie, l'amour, l'amitié, les récréations, tout ce qui exprime les activités intelligentes de l'homme. La distinction entre le sacré et le profane ne peut donc pas être maintenue. D'où vient cette idée de ne plus maintenir la distinction entre le sacré et le profane? Elle vient d'une société qui commence par dire « Dieu n'est pas Dieu ». Dieu n'est pas le créateur et l'homme est le produit de l'évolution. Retirez Dieu, sortez Dieu du cadre dans lequel il se révèle et la distinction entre le sacré et le profane n'a même plus lieu d'être aux yeux de ceux qui prétendent croire ces choses. Se pourrait-il que le christianisme, qui tient véritablement à l'authenticité de la parole de Dieu et au caractère de Dieu, ait cependant accepté, sans s'en rendre compte, ce que les humanistes enseignent sur la base de leur non-croyance en Dieu? Serait-il possible que nous soyons tombés dans ce travers et dans ce piège-là aussi? La différence entre le sacré et le profane. Dieu a voulu garder très clairement la ligne entre le sacré et le profane. Et il s'attend par conséquent à ce que ses enfants sachent faire la distinction. Il demandait aux sacrificateurs de l'enseigner au peuple. Effectivement, nous lisons les Écritures et Dieu marque très clairement la distinction entre le sacré et le profane. Par exemple, vous prenez dans le livre de l'Exode au chapitre 20 les 10 commandements. Au verset 8, il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Dieu a tracé une ligne même dans le temps. Il y a un temps qui est sacré et un temps qui est profane. Le sabbat est un temps sacré. Mais bien sûr, on comprend que lorsque l'on a sorti Dieu de son sanctuaire et de son cadre de la révélation, lorsque les hommes ont pris sur eux l'initiative de faire l'intercession à la place du Christ ou de pardonner les péchés à la place du Christ, ils ont aussi pris l'initiative de changer, comme Jéroboam l'avait fait, le temps sacré que Dieu avait placé. Jéroboam aussi avait déplacé les fêtes, il les avait placées là où il lui semblait bon de les mettre, hors des dates que Dieu avait établies. Je crains que c'est exactement ce que le christianisme a aussi accompli dans le temps. Il y a aussi un culte sacré dans ce temps sacré. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 29, nous a raconté comment un réveil s'est établi dans le peuple d'Israël du temps d'Ézéchias. Deuxième livre des Chroniques, au chapitre 29. Au verset 3, il est dit ceci. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites, qu'il assembla dans la place orientale et leur dit, « Écoutez-moi, lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. » Il y avait du ménage à faire pour que le culte soit un culte saint, et que ce lieu soit un lieu saint, et que ces célébrations soient saintes. Il fallait faire du ménage et sortir ce qui était impur et qui n'appartenait pas à ce que Dieu avait prescrit. D'ailleurs, un peu plus loin, en faisant le ménage, ils vont aussi régler des choses par rapport au culte et aux instruments de musique. Regardez un petit peu plus loin, dans le même chapitre, 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 25. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le prophète du roi, et de Nathan, le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Dieu avait indiqué quels étaient les instruments de musique qui étaient utilisés dans son culte, dans son temple, dans ses fêtes. Évidemment, les libertés que les rois avaient prises, en mélangeant le sacré et le profane, ils en avaient aussi mélangé les instruments de musique et le style de musique et le style de culte et les lieux de culte et les temps du culte et les prêtres du culte. On avait enlevé cette barrière entre le sacré et le profane. On avait sorti Dieu du cadre de son sanctuaire tel qu'il avait révélé et on avait jugé que le commun pouvait servir de sacré et que le sacré pouvait servir de commun. Dieu a donné dans sa parole une claire distinction entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Une distinction qui nous fait comprendre que ce qui appartient à Dieu est fondamentalement différent du reste. Lorsque nous mettons à part le jour du sabbat, c'est pour lui donner un contenu qui soit différent des autres jours. Sacré, profane. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple de la manière dont le christianisme d'aujourd'hui a traité cette différence entre le sacré et le profane. Dans son livre, Dan Lucarini cite Rick Warren, une figure évangélique bien connue aujourd'hui, et qui écrit ceci. Nous utilisons le style de musique que la majorité des gens de l'Église écoutent à la radio. Ils aiment une musique joyeuse avec un rythme fort. Leur oreille est habituée à une musique soutenue par un rythme puissant et une forte basse. Ainsi, la musique utilisée le dimanche à l'église ne doit pas être différente de celle que les gens écoutent à la radio toute la semaine. Distinction entre le sacré et le profane. Le monde d'aujourd'hui a véritablement reproduit au sein du christianisme le péché de Jéroboam en enlevant la distinction entre le sacré et le profane. Et il y a pour nous matière à réflexion, parce que nous pouvons aussi aller plus loin. Nous poser la question par rapport à nos vêtements, le jour du sabbat. Est-ce que la manière dont nous nous habillons le jour du sabbat va être la même que la manière dont nous nous habillons le reste de la semaine? Sacré, profane, y a-t-il une différence? Nous pouvons nous poser la question par rapport aux activités que nous avons dans le jour du sabbat, par exemple. Écoutez ceci. Bruce Ashton cite William Ford qui déclarait en 1987 « La télévision est en train d'usurper le rôle qui était jusque récemment le rôle de la religion dans la société, c'est-à-dire former notre système de valeurs, construire notre foi, exprimer les fondements de notre culture. Il disait ça en 1987, mais c'était déjà véritablement le cas quand il l'a écrit. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? La télévision remplit le rôle que la religion remplissait autrefois. Nous donner nos valeurs, nous donner notre foi, donner les fondements de notre culture, selon son texte. Alors, le sacré, le profane, va-t-on laisser le monde contemporain prendre véritablement la place de la religion de Dieu pour édicter ces choses dans notre vie ? Si nous le faisons, bien entendu, nous participons encore à cette destruction de la barrière entre le sacré et le profane. Pour prendre simplement un ou deux exemples simples, dans le livre du Lévitique au chapitre 27 et au verset 30, il nous est parlé encore de là quelque chose qui est saint. Lévitique, chapitre 27. Et vous comprenez que ce ne sont là que quelques exemples, nous pourrions en rajouter bien d'autres. J'aimerais simplement stimuler votre réflexion pour savoir à quel point dans notre existence nous avons ou non détruit cette séparation entre ce qui est saint et ce qui est profane. Lévitique chapitre 27, le verset 30 dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit de l'arbre, appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. » La dîme, nous dit la parole de Dieu, est une chose sainte. On ne peut pas en faire ce qu'on veut, on ne peut pas l'utiliser pour nos besoins. Elle appartient à Dieu et elle est consacrée à Dieu. C'est une chose sainte. Est-ce que nous avons gardé dans ce domaine-là la distinction entre ce qui est profane et ce qui est sacré ? Permettez un autre exemple dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. Au verset 19, il est écrit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ? Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps, nous dit la Bible, est saint. Il est sacré parce qu'il est le temple du Saint-Esprit selon le plan de Dieu. Je ne peux donc pas faire n'importe quoi avec mon corps. La Bible dit que nous ne nous appartenons même pas à nous-mêmes, parce que nous appartenons à Dieu. » Et curieusement, sur ce chapitre, dans le livre du Lévitique, au chapitre 10, se trouve un texte intéressant, où des instructions étaient données sur ce point-là. Lévitique, chapitre 10, il est dit au verset 9, il est ici question d'instructions qui sont données aux sacrificateurs. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Si nous voulons être capables de transmettre le message de la parole de Dieu, il faut que nous soyons capables de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur, et nous en donner les moyens par notre mode de vie, par notre style de vie. Ainsi, finalement, nous nous rendons compte que, au travers de tout ce que Dieu proclame comme saint, comme particulier, comme mis à part, comme différent, se trouve tout ce que nous sommes. Nous sommes appelés, nous dit le livre de l'Apocalypse, à être un peuple de sacrificateurs pour Dieu, un peuple saint. Ainsi, l'Église et chacun d'entre nous en particulier sommes invités à conserver dans notre vie, dans notre Église, dans nos pensées et dans notre culte, la distinction entre ce qui est profane et ce qui est sacré. C'est une distinction qui finalement s'apparente à la transformation de notre vie. Parce qu'en gardant la distinction entre ce qui est profane et ce qui est sacré, nous permettons à Dieu de réaliser en nous cette œuvre de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je suis conscient que vouloir garder la distinction entre le profane et le sacré nous oblige à remonter le courant dans la société où nous sommes. Elle nous oblige parfois même à remonter le courant à l'intérieur de l'Église. Cependant, je crois que cette invitation de Dieu est encore pour nous aujourd'hui. Même si le péché de Jéroboam envahit le monde et envahit l'Église, nous ne sommes pas contraints cependant de suivre cet exemple-là. J'aimerais au contraire vous inviter à suivre l'invitation qui nous est donnée dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il est écrit ceci. « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Amen.